16 ans plus tôt. Premier grand week-end d'Anastasia à Verbier. À 22h, en ce vendredi soir de grand week-end, le bar du palace de Verbier était pris d'assaut par les employés de la banque Ebesner. Comme promis à Klaus, Olga y avait traîné ses filles. Ils s'étaient tous retrouvés autour d'une table haute sur laquelle trônait un seau à champagne. Klaus était affublé de Macaire Ebesner, dont il avait de la peine à se débarrasser, et les deux hommes déployaient tous les efforts possibles pour courtiser Anastasia. Ils lui parlaient de la bourse et des affaires, étalant de façon complaisante leurs hautes responsabilités, tout en sifflant du champagne comme si c'était de l'eau. Klaus était beau et bien bâti, élégant, mais il dégageait une impression de méchanceté. Il avait le regard noir, des intonations parfois saccadées, brusques, agressives. Il était surtout très prétentieux, content de lui, se vantant de son rang et de sa fortune, ce qui rebutait Anastasia, mais n'était pas pour déplaire à sa mère. Macaire, lui, était un assez beau jeune homme, soigné, avenant, qui paraissait sympathique et gentil, mais pas sûr de lui et un peu collant. On le sentait à la fois attiré et intimidé par Anastasia. Olga, qui n'avait pas son pareil pour tirer avantage des gens, n'eut aucune peine à le convaincre de leur garantir, à elle et ses filles, l'accès au grand bal de la banque qui se tenait le lendemain. Irina, éclipsée par sa sœur, multipliait les efforts pour faire partie de la conversation, tandis qu'Anastasia, elle, ne prêtait que peu d'attention aux deux hommes. Elle semblait nerveuse. Son regard était rivé à la grande horloge murale. Déjà 22h30. Plus que 30 minutes. Elle ne voulait pas le rater. Olga, elle, était aux anges. Ses deux filles chéries entourées par un aristocrate richissime et l'héritier d'une banque. Lorsque Klaus s'absenta pour aller réclamer une bouteille de champagne au bar et Macaire, lui, pour aller soulager un besoin, Olga laissa éclater sa joie. « Voyez, mes filles, comme le Seigneur vous aime » dit-elle en russe pour qu'on ne les comprenne pas. « Regardez ces deux hommes qui brûlent de désir pour vous !»«
Surtout pour Anastasia, » gémit Irina.
Ils sont tous les deux à baver devant elle. Moi, c'est comme si je n'existais pas. Personne ne me remarque.
Tout le monde te regarde, ma chérie, la rassura sa mère.
Tiens, tu vois ce type là-bas? Depuis tout à l'heure, il te reluque.
Il est vieux, s'insurgea Irina.
Mais non, il a 40 ans maximum. Allons, ma fille, quand on t'offre un cheval, on ne compte pas ses dents.
À proximité des trois femmes, un homme qui s'était mêlé au banquier écoutait leur conversation. Faisant mine de jouer distraitement avec son verre de vodka vide, il ne perdait pas une miette de leur discussion puisqu'elle parlait dans sa langue maternelle. C'était l'un des plus importants clients du palace, de ceux qui ne voulaient pas prendre le risque de froisser. Aussi était-il l'un des seuls à pouvoir séjourner dans l'établissement durant le week-end de la banque Ebesner. Pour lui, tout le personnel se mettait au garde à vous. Un serveur s'approcha de l'homme.
« Encore un verre, monsieur Tarnogol ?» lui proposa-t-il.
« Vodka Beluga on the rocks, c'est ça ?»
Tarnogol refusa d'un geste agacé de la main et l'employé tourna les talons aussitôt. À 23h, le miracle se produisit. Olga, ayant découvert que l'homme qui regardait Irina avec convoitise était un gérant de fortune très en vue qui avait obtenu les meilleurs résultats de l'année au sein de la banque Ebesner, elle décida de prendre la situation en main et d'aller lui présenter sa fille. Au même moment, Klaus proposa de quitter le palace et d'aller dans un club de Verbier. Macaire trouva l'idée fort bonne. Anastasia, qui vit là l'opportunité de se débarrasser d'eux, le rassura qu'elle les y rejoindrait si sa mère l'autorisait. Ils quittèrent le bar et Anastasia alla trouver sa mère.
« Maman, Klaus veut qu'on sorte. »«
Alors vas-y, file! Que fais-tu encore là ?»«
Je risque de rentrer tard. Je voulais ta permission de... »«
Va, va !»
s'excita Olga.
« Amuse-toi et fais attention à toi. Tu me raconteras tout demain. Allez, oust, file !»
Le visage d'Anastasia s'illumina. Elle embrassa sa mère et s'enfuit d'un pas léger. Dans sa précipitation, elle ne remarqua pas l'ombre qui l'observait. Elle courut le long du petit couloir qu'elle avait emprunté tout à l'heure, puis poussa la porte de service. Elle le revit alors. Il ne portait toujours qu'une tenue de service, mais il avait toujours la même allure princière. Elle ne put s'empêcher de crier son prénom, son beau, son magnifique prénom.
« Lève !»
Il se retourna et lui offrit un sourire de ses dents parfaites. 23h, pile à l'heure, sourit Lève qui venait de terminer son service. Elle se précipita sur lui et l'embrassa longuement. Un long baiser sous-marin. Ce qu'elle ressentait était indescriptible, comme une explosion intérieure, comme des picotements qui la traversaient, comme des milliers de papillons colorés qui s'échappaient de sa poitrine. Il entraîna un ascenseur de service qui les emmena jusque sous les combles du palace où se trouvaient les chambrettes des employés. Il la conduisit dans la sienne, bien rangée, débordante de livres, joliment illuminée de bougies qu'il avait dispersées partout en prévision de ce moment. Ils se déshabillèrent doucement, sans cesser d'échanger de longs baisers, comme reliés par la bouche. Et à l'abri de la pièce, à l'abri du monde, à l'abri du froid, face au panorama de la vallée du Rhône que l'on apercevait d'une petite fenêtre mansardée, ils firent l'amour. Elle n'était pas vierge, elle s'était beaucoup donnée. Sous les conseils de sa mère, elle s'était laissée faire par d'insignifiants fantoches appartenant à la jeunesse dorée de Klausters, de Saint-Moritz, de Gstaad. « Les hommes ont des besoins », répétait sa mère. « Il faut les satisfaire, sinon ils ne te choisiront jamais. » Mais ce qu'elle vécut cette nuit-là avec Lev, elle ne l'avait jamais vécu auparavant. Lorsque l'aube chassa l'obscurité, il n'avait toujours pas dormi. Ils contemplèrent, enlacés, le soleil qui se levait doucement derrière les crêtes des montagnes colorant le ciel de lumière merveilleuse. Lev la serrait entre ses bras noueux, faisant glisser le bout de son doigt sur son dos nu, et chaque caresse la faisait frissonner. Elle l'aimait. Depuis quelques heures, elle avait découvert ce que signifiait aimer. Elle s'endormit finalement. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, il n'était plus dans le lit. Elle le trouva assis à côté d'elle. Il avait revêtu son uniforme d'employé. Il lui tendit une tasse de café fumant et un panier débordant de croissants encore chauds. « Je dois aller prendre mon service, » lui dit-il. « Tu peux rester ici tant que tu veux. Prends l'ascenseur pour redescendre. Tu connais le chemin. »« Quand est-ce qu'on se revoit ?» demanda Anastasia. Lev sembla surpris par la question. « Se revoir ? Tu voudrais me revoir ? » ?»« Évidemment que je veux te revoir. Qu'est-ce qui pourrait te faire penser le contraire ? » ?»« Tu te vois vraiment avec un gars comme moi ? » ?»« Qu'est-ce que c'est, un gars comme toi ?» demanda-t-elle amusée par la remarque. « Je veux dire, un petit employé d'hôtel, sans avenir. J'habite une chambrette dans les combles d'un hôtel où je travaille à de basses besognes. Je dépends des pourboires que les clients veulent bien me donner. Je suis un pauvre, Anastasia. Je n'ai rien. Je suis un misérable petit employé d'hôtel. » « Et que crois-tu que je sois ? Une princesse russe, pleine aux as, qui passe tes hivers en Suisse, tes étés sur la Côte d'Azur, et qui a son domicile fiscal à Londres ou Monaco. » Elle éclata de rire et l'embrassa. « Je ne suis rien de tout ça !» lui dit-elle, rayonnante de n'avoir pas à mentir pour une fois et de se sentir si libre d'exister. « Je partage avec ma sœur une chambrette comme celle-ci. Ma mère est vendeuse dans un grand magasin à Genève. On n'a pas en rond, rien. On est entassé pour le week-end dans une chambre ignoble de l'auberge des Chamois. Ma mère veut à tout prix nous faire fréquenter la haute société et nous marier à un prince ou un baron ou je ne sais pas qui. Des pauvres, Lev, voilà ce que nous sommes. Alors oui. » « Je veux absolument te revoir. Je ne voudrais même plus jamais devoir me séparer de toi. » Il répondit par un sourire lumineux. « Ce que je ressens pour toi en ce moment même, je ne l'ai jamais ressenti pour personne d'autre, Anastasia. » « Anastasia !» Macaire arrêta la voiture devant l'hôtel des Bergs où se pressait le gratin des banquiers privés genevois. Il était 19h25. « Anastasia, ça va ?» demanda encore Macaire. Elle essuya une larme qui roulait sur sa joue. « Tout va bien, » assura-t-elle. « Tu pleures ? » ?»« Non, juste une poussière dans l'œil. » « C'est une réponse de roman, » fit-il remarquer. « Les poussières n'ont jamais fait pleurer personne. » « Les poussières de souvenirs, si. » Il ne comprit pas. Deux voituriers ouvrirent les portes du véhicule et ils furent happés par la foule qui s'engouffrait dans l'hôtel. Dans le hall de marbre blanc, un flot de banquiers triomphants au bras de leurs épouses convergeait vers la grande salle de bal du premier étage. On se saluait, on parlait fort, on se donnait des airs importants. Tout heureux d'être de la haute, la crème des banquiers, tout excité de la fin d'année qui approchait et des bonus annuels qui tomberaient bientôt. Anastasia et Macaire pénétrèrent dans le hall à leur tour. Ils étaient beaux, elle dans sa robe longue en satin noir et lui en smoking. Dans sa poche, la fiole de poison avec laquelle il jouait nerveusement. Soudain, Macaire vit Arnogol qui descendait précipitamment les escaliers à contre-courant de la foule. Pensant qu'il venait à sa rencontre, Macaire se figea et lui offrit un sourire de vierge. « Bonjour, cher signor !» dit Macaire d'une voix de nigaud. mais Tarnogol passa devant lui sans même le regarder et quitta l'hôtel précipitamment pour s'engouffrer dans un taxi. À sa suite, au milieu des marches, Macaire aperçut soudain Levovitch, infernalement beau dans un costume trois pièces.
« Merde !» murmura-t-il à Anastasia. « Voilà Levovitch. Mais qu'est-ce qu'il fout ici, celui-là »
Anastasia leva les yeux sur son amant et ne put empêcher un immense sourire d'illuminer son visage. Elle sentit son cœur battre plus fort que jamais. Elle se sentit plus amoureuse. Elle l'admira, plus beau, plus droit, plus puissant que tous les autres hommes qui l'entouraient et au milieu desquels il détonnait. Elle se sentait vivante en sa présence. Elle le revit soudain tel qu'il était, 16 ans plus tôt, le week-end de leur rencontre. 16 ans plus tôt. Premier grand week-end d'Anastasia Verbier, le samedi soir. Au palace de Verbier, Anastasia, sa sœur et sa mère étaient seules dans la cabine de l'ascenseur qui les menait au premier étage où se trouvait la salle de bal.
« Le gala de la banque, c'est le summum du summum !»
jubilait Olga, le regard chaviré de bonheur.
« Vous rendez-vous compte, les filles, quelle chance vous avez d'en être !»«
C'est grâce à toi, Mamouchka !»
la flatta Irina qui trépignait de joie à l'idée de retrouver son gestionnaire de fortune.
« C'est grâce au fils Ebesner, surtout !» C'est vraiment un gentil. Il n'a pas inventé la poudre, mais il fera un bon mari. N'est-ce pas, Anastia ?
Quand Olga était de très bonne humeur, elle appelait Anastasia Nastia.
Si tu le dis, maman,
répondit Anastasia qui s'efforçait d'avoir l'air enthousiaste pour ne pas déclencher l'ire de sa mère. Elle ne pensait qu'à Lev.
J'ai pu m'arranger pour que nous soyons à la table de Macaire et de Klaus, annonça fièrement Olga. Il est très bien, ce Klaus. « Bonne famille et tout et tout !»«
Et moi, Mamouchka ?»
demanda Irina qui s'inquiétait d'être laissée pour compte.
« Ne t'inquiète pas. Dès que les gens se lèveront pour danser, tu fonces vers ton gentil gérant de fortune. Tout est prévu, mes filles, tout est prévu. Je crois que ce soir, vos destins seront enfin scellés comme il se doit. »«
Bravo, Mamouchka !»
s'écria Irina tout excitée à l'idée de la nouvelle vie qui l'attendait avec le gestionnaire de fortune. Il était plus vieux qu'elle l'imaginait, oui, et pas aussi beau que dans son idéal. Mais il avait une villa avec piscine à Vesnaz. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le premier étage après une sonnerie caractéristique. Les trois femmes découvrirent alors un jeune homme superbe, vêtu comme un prince, qui semblait les attendre.
« Lev !» ne put s'empêcher de murmurer Anastasia dans un sourire éclatant.
« Tu connais ce garçon ?» demanda Olga, impressionnée par l'apparence du jeune homme.
Lev s'inclina devant Olga pour la saluer.
« Bonjour, madame !»
lui dit-il en la gratifiant par un baise-main royal qui fit frissonner la vieille bique.
« Permettez-moi de me présenter. Lev Roussipov, comte Romanov, » montit le jeune homme avec aplomb.
À ces mots, Olga faillit s'évanouir de joie.
« Un Romanov ! Dieu soit loué ! Un Romanov ! La maison impériale de Russie !»
Pour s'éviter une fausse joie, elle lui demanda en russe
« Vous voulez dire Romanov, Romanov ?»
Lev lui répondit dans un russe raffiné, s'inclinant encore, la main sur le cœur
« Tsar et empereur de Russie, tsar de Kazan, d'Astrakhan, de Sibérie, de Kiev, de Vladimir et de Novgorod, roi de Pologne et grand-duc de Finlande, pour vous servir, chère madame. »
Olga offrit un sourire conquis à Lev. Anastasia réprima un fou rire.
« Ma fille Anastasia que voici est prénommée ainsi en l'honneur de la maison impériale !»
expliqua alors Olga, toujours en russe. « Gloire à vous de perpétuer la grandeur de ma famille !»
Ils repassèrent au français. « Je n'avais pas connaissance d'un Romanov travaillant à la banque Ebesner !»
releva alors Olga, qui avait pourtant fait ses recherches avec zèle.
« Travailler ?» dit Lev d'un ton badin. « Vous pensez que j'ai besoin de travailler ? L'heure est aux insultes à ce que je vois !»
Olga rit à son tour, conquise par ce jeune aristocrate à l'humour acide.
« Je suis en villégiature à Verbier, » expliqua Lev. « Monsieur Ebesner, père, m'a invité à me joindre au dîner ce soir. Peut-être par amitié, peut-être parce que je fais partie des plus gros clients de la banque. »
La vieille Olga fut subjuguée.
« Lev !» murmura-t-elle,
éblouie par le charisme du jeune homme. Elle n'avait encore jamais entendu ce prénom. La preuve que c'était celui d'un roi. À quelques mètres de là, naviguant dans la foule des banquiers à laquelle il n'appartenait pas, Signor Tarnogol observait, mi-amusé, mi-curieux, le balai de ce jeune homme dont il savait qu'il n'était qu'un employé de l'hôtel.